Bonjour, je m'appelle Gaël Teixeira. Je suis né à l'île de la Réunion dans une famille chrétienne pentecôtiste. Mes parents et l'Église ont participé grandement à ma formation religieuse et c'est ainsi que j'ai compris que Jésus était mort sur la croix pour moi. Cependant, mon cœur il n'était pas à 100% pour le Seigneur. Je vivais toujours dans le péché. Et je me disais, Dieu sauve et qu'il pardonne si on lui demandait d'un cœur sincère. Je me disais, pourquoi me faire baptiser, sachant qu'autour de moi, les gens ils sont baptisés aussi, mais beaucoup sont encore dans le péché. Alors je me suis posé la question, je me disais, je suis tout simplement pas prêt, et que la vie est encore longue, et j'ai encore du temps devant moi. Alors le temps est passé, et je suis parti en France pour la suite de mes études. Et en même temps que je suis parti en France, j'ai délaissé mon Dieu. Parce que même si je priais tous les jours, mon cœur, lui, était loin du Seigneur. Alors, les ennuis aussi ont commencé. J'ai subi la trahison d'une personne qui était très chère à mon cœur. J'avais du mal à trouver du boulot. J'avais des problèmes financiers. Et puis là où tout semblait... perdu quoi. Donc ma famille et mes amis ils ont essayé de m'aider, mais comme ils étaient loin, la solitude me gagnait quoi, et la tristesse, cette tristesse qui s'est transformée en haine la plus profonde que j'avais envers cette personne. Franchement, mes pensées ils allaient très loin et je croyais vraiment que tout était perdu. Alors je me suis souvenu que Dieu pardonne. Alors, je l'ai imploré de m'aider, je lui ai demandé de me pardonner, et le Seigneur a répondu à mes prières. Tout d'abord, il m'a donné un boulot, et à force de persévérance dans la prière, et après m'avoir été repenti, le Seigneur a changé mon cœur. Il a guéri mon cœur, et toute cette haine a disparu. Et aujourd'hui, j'ai pardonné à cette personne, et je prie encore pour elle aujourd'hui. Et après tout ce que Jésus a fait pour moi, dans ma vie, je suis convaincu qu'il est le Fils de Dieu, et c'est pour cela que je m'engage à me faire baptiser aujourd'hui. Je veux qu'il dirige ma vie. Je finirai par ce verset, Romains chapitre 12, verset 14. Demandez à Dieu du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Amen.
Amen. Amen. Gaël nous vient de l'île de la Réunion et ses parents n'ont pas pu être là cet après-midi parce qu'ils sont là-bas. Mais on va demander alors à un Réunionnais de prier pour Gaël. En ce moment, Olivier, hein, tu veux bien le faire ?
Seigneur, merci encore pour notre frère, Seigneur, qui s'engage après-midi avec toi, Seigneur. Je te demande vraiment, et je sais que c'est la volonté de tous mes frères et sœurs, Seigneur, que tu puisses vraiment le bénir, que tu puisses vraiment, Seigneur, le fortifier, Seigneur, que tu puisses vraiment guider sa vie. C'est lui qui te le demande, Seigneur. Et Seigneur, quand tu lui dans ta parole demander, vous recevrez, Seigneur. Et nous savons que tu vas lui donner des choses, Seigneur, que tu vas le bénir, que tu vas le fortifier, que tu vas l'aider dans chaque épreuve, Seigneur, qui subira sur cette terre, Seigneur. Vraiment, bénis-le, garde-le, bénis sa famille également, bénis ses amis, Seigneur, que vraiment il puisse porter le témoignage qu'il faut pour toucher le cœur de tous les gens qui sont autour de lui, Seigneur. Bénis également cette personne, Seigneur, qui pensait à cette personne, oui, Seigneur, qui avait de la haine et à qui tu as changé son cœur, Seigneur. Bénis cette personne également, qu'il puisse te rencontrer, Seigneur, encore aujourd'hui. Sois béni, mon Dieu.
Amen.
Gaël, crois-tu que Jésus a pardonné tes péchés ?
Oui. Oui, je le crois.
Veux-tu faire de Jésus ton sauveur maintenant et ton
oui.
Seigneur ?
Oui.
Crois-tu qu'il a inscrit ton nom dans le livre de vie ?
Oui.
Et qu'un jour, il va venir te chercher ?
Oui.
Sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Vous avez entendu ce cantique. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a étonné dans ce cantique ? Est-ce qu'il y a un mot qui peut vous avoir étonné? Merci. Repens-toi. Vous avez entendu? Repens-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va lire d'abord deux textes. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, comme on me la pose des fois, à quoi ça sert un pasteur? Vous savez que des fois, à quoi ça sert? Quand je dis aux gens, qu'est-ce que vous êtes pasteur? À quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert un pasteur? Et si on faisait la réunion tous ensemble, si vous m'aidiez, à quoi ça sert un pasteur, Julie? Hein? Oui. C'est bien. C'est bien. À faire passer les âmes des ténèbres à la lumière. Encore. Qu'est-ce que vous répondriez, vous? Qu'est-ce que vous répondriez si on vous disait à quoi ça sert un pasteur? À former d'autres pasteurs? À quoi ça sert? À annoncer la bonne nouvelle. Encore. Un berger, qu'est-ce qu'il fait un berger? Il conduit un troupeau, il nourrit un troupeau. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Souvent, on m'a dit, mais un pasteur, à quoi ça sert? Et c'est vrai. C'est vrai, il y a des gens, ça fait du social. Non. Le social, c'est la conséquence de notre amour pour Dieu, de notre amour pour les âmes. Mais la responsabilité d'un pasteur, c'est de prêcher l'évangile pour que vous soyez sauvés et que vous n'alliez pas en enfer. C'est des mots qu'on n'ose plus trop utiliser, mais en vérité, Dieu bénit sa parole lorsque l'on dit la vérité. Alors on va lire deux textes qui rappellent bien ce que Michael a dit au début de la réunion. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, le Seigneur avait envoyé les apôtres faire un travail, et puis ils reviennent. Alors on va lire Luc, chapitre 10, verset 16. Luc chapitre 10, verset 16. « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. » Alors on va lire un autre texte terrible. Je ne sais pas si les pasteurs osent le lire, si on ose le lire, mais ça ne fait rien, on va le lire. Restez s'il vous plaît, ne partez pas. Apocalypse chapitre 20, verset 15. C'est un verset qui fait froid dans le dos. Pourtant c'est Jésus qui l'a dit, pour que les hommes réfléchissent à ce qu'est justement la repentance. Pourquoi on va dans une église? Pourquoi tant de gens ont pris le baptême? Comme disait Gaël tout à l'heure, il a dit quelque chose que peut-être même des pasteurs auraient dit, surtout ne dites pas ça. Vous avez entendu ce qu'il a dit Gaël dans son témoignage? Vous avez écouté son témoignage? Vous l'avez écouté? Vous avez entendu qu'il a dit que lorsqu'il regardait certains chrétiens qui avaient malgré tout pris le baptême, il était quand même choqué de voir que certains continuaient à vivre comment? Dans le péché. Et c'est ce qui a scandalisé les gens pendant des siècles, parce que les chrétiens, qui auraient dû donner un bon témoignage de leur foi, eh bien, en fin de compte, faisaient les choses d'une manière religieuse, superstitieuse, et prenaient le baptême pour prendre le baptême, alors qu'ils n'étaient pas passés par la repentance. Et Gaël a beaucoup avancé, il a souffert, il a vécu des difficultés, il a vu certaines choses, et il a pris la décision de donner son corps au Seigneur, en espérant qu'il sera un bon témoin du Seigneur Jésus-Christ, et peut-être même un pasteur. Je ne sais pas. Si vous n'êtes pas formé ici, ça ira bien. Non. Alors on le lit ce verset, Apocalypse chapitre 20, verset 15. C'est un verset très très important. Quiconque, donc c'est n'importe qui, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez de ce verset? Vous l'avez lu avec moi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit, que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Dans toutes les églises du monde, dans toutes les églises, il y a des registres. Sur les registres sont inscrits les noms de ceux qui sont membres de l'église. Voilà, dans les églises catholiques, les églises protestantes, les églises réformées, toutes les églises pentecôtistes, il y a des registres. Et le nom est inscrit. Mademoiselle Julie Séry, baptisée il y a combien? 10 ans, tout ça? Oui, oui, vous ne vous rappelez pas?
Bon, elle n'ose pas le dire. Elle a été baptisée, votre nom, elle est membre de l'Église. Voilà. Est-ce que parce qu'on a pris le baptême, on est sauvé? Puisque la Bible dit, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est un gros sujet, le salut. C'est pour ça qu'on a des réunions. C'est pour ça que Dieu veut ce genre de réunion. Moi, bien sûr que ma préoccupation, c'est que cet après-midi, nous chantions des cantiques qui permettent à l'Église de se réjouir. Est-ce qu'on peut se réjouir du salut? Mais bien sûr, la Bible nous dit, réjouissez-vous. D'ailleurs, vous avez vu, quand les apôtres reviennent de leur mission d'évangélisation, ils sont super contents parce qu'ils ont reçu la puissance de Dieu et que les gens qui étaient tourmentés par des démons sont délivrés. Seigneur, tu ne sais pas, c'est super, même les démons nous sont soumis. Et Jésus, il les ramène au calme, il dit, écoutez, ne vous réjouissez pas du résultat. Réjouissez-vous d'une chose, de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Donc moi, la question qui me préoccupe, c'est pas si Gaël est membre maintenant de l'église de Pentecôte, de 9 rue Saint-Guilhem, ou s'il retourne à La Réunion, s'il sera dans l'église de monsieur un tel, ou de telle dénomination, c'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est que vous soyez tous prêts à rencontrer le Seigneur. Ce sont des choses sérieuses, ce sont des choses solennelles. Aujourd'hui, quand on parle de l'église, dans des églises, de quoi parle-t-on? De quelle église êtes-vous? Si vous devez mourir, est-ce que vous allez passer par l'église? On l'entend ça? Est-ce que vous allez passer par l'église? Il est mort, est-ce qu'il est passé par l'église? Ah oui, c'est bien. Ouais. Ah, on n'allait pas l'enterrer comme un chien. On l'entend ça, c'est des discussions qu'on entend régulièrement. Est-il passé par l'église? Alors est-ce que parce que quelqu'un ne passe pas par l'église le jour de son enterrement, est-ce qu'il est forcément perdu? Mais bien sûr que non. C'est pas l'église qui sauve. C'est pas une dénomination qui sauve, c'est pas l'Assemblée de Dieu de Pentecôte qui va vous sauver, c'est pas l'Église catholique qui va vous sauver. C'est une hérésie quand on dit que c'est une Église qui sauve. Ce n'est pas une Église qui sauve, c'est Jésus le Sauveur du monde. C'est pour ça que c'est lui que nous annonçons, c'est lui qui a donné sa vie sur le bois de la croix, et ce n'est pas une question de dénomination. Des fois on me pose la question, monsieur Hugo, qui c'est qui est sauvé? Est-ce que les protestants sont sauvés? Est-ce que les catholiques sont sauvés? Moi je vais vous dire, seront sauvés, tous ceux, quelle que soit leur dénomination ou pas, auront cru que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix et qu'ils se seront repentis. À ce moment-là, oui, il y a de la joie dans le ciel. C'est pour ça que Michael rappelait à l'introduction de cette réunion qu'il y a de la joie dans le ciel. C'est écrit où ça, qu'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent en fait? C'est bien joli de citer des versets, mais c'est écrit où? Ah, c'est bien. Luc chapitre 15, c'est lorsque Jésus parle justement de la brebis perdue. Il dit à la fin, voilà qu'il y a de la joie dans le ciel. Et oui, parce que un pécheur sauvé, c'est extraordinaire. Que des fois on est là, nous il est mort à 40 ans, il est jeune pour mourir, c'était pas son heure. Mais Dieu peut nous reprendre quand il veut. Qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé, Dieu reprend les gens quand il veut. Et notre âme ne nous appartient pas. Vous pensez que votre âme vous appartient parce que vous êtes jeune, parce que vous veillez sur votre santé, vous mangez bio pour vivre le maximum de temps, pour pas ingurgiter des saletés dans votre organisme. Il y a des gens. Moi, je connais une personne qui a mangé bio, vous pouviez pas manger plus bio qu'elle. Elle avait même pas de congélateur parce qu'elle ne voulait rien, 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 rien. Et pourtant, elle a attrapé un cancer à 37 ans, elle est morte. Et pourtant, je peux vous assurer, ils voulaient même pas, je les connaissais très bien, c'est ma soeur. Et elle voulait même pas un congélateur, ils achetaient que des trucs frais, que des trucs bio. Notre vie ne nous appartient pas. Votre vie ne vous appartient pas. Et ce n'est pas la pression qu'on met, parce que alors là, ça serait grave si un pasteur, quel qu'il soit, ou un prêtre, utilisait, voyez, la chair pour mettre la pression sur les gens. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne bénit pas ce travail. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, votre vie ne vous appartient pas. Vous devez l'entendre, vous devez le savoir. Vous avez vu cet avion qui a été... qui s'est écrasé, en fait, ce n'est pas l'avion qui s'est écrasé, ce pilote, ce copilote qui a assassiné tous ces gens. C'est terrible ça. Ça vous montre combien les gens sont de plus en plus fous, de plus en plus enténébrés, de plus en plus irresponsables. C'est révélateur des ténèbres dans lesquelles notre monde est plongé. On juge personne, mais en fait c'est révélateur quand même de ce que les hommes sont de plus en plus irresponsables. Dans une église où on ne prêche pas qu'il faut se repentir, eh bien c'est de l'irresponsabilité. si vous entendez un beau sermon, je ne sais pas, un beau sermon ici, il n'y en a pas, mais un beau sermon sur un sujet qui pourrait plaire à vos oreilles, ça, c'est de l'irresponsabilité. C'est exactement comme un copilote qui est irresponsable dans un avion. Il vous tuera et vous irez à l'enfer. Jésus est formel, il veut que vous alliez au ciel. Il veut que vous soyez sauvés. Et ne vous appuyez pas sur votre religion. Moi, je suis de cette religion. Moi, je suis catholique. Vous savez, je suis très assidu à mes réunions. Je vais tous les dimanches à l'église. Mais ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. La question la plus importante, c'est pas combien vous gagnez par mois. Est-ce que vous avez fait de belles études? Est-ce que vous avez un bon salaire? C'est quoi la question la plus importante pour vous? En tous les cas, dans la Bible, la question la plus importante, c'est votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? C'est la question la plus importante. Vous pouvez calculer pendant 6 mois, si vous voulez, je vous laisse du temps, pour réfléchir à quelle est la question la plus importante. Est-ce que je vais vivre vieux? Est-ce que je vais finir seul? Est-ce que je subirai un divorce? Est-ce que je serai malade? C'est des questions qu'on peut tous se poser. Mais en vérité, c'est pas important. La véritable question, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Dans le registre d'une église, je vais vous dire, c'est pas grave. Si on oublie de mettre Gaël dans la liste de l'église, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous nous en voudriez, Gaël, si votre nom n'est pas inscrit? C'est pas grave. Alors je peux vous dire, c'est pas ça qui fera qu'à l'enlèvement de l'église, Dieu va pas consulter les registres avant l'enlèvement. Dieu, il sait s'il y a sur votre corps, sur votre front, la marque du Seigneur. Parce que la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand on prend le baptême, c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est pour ça que nous faisons parfois des réunions, nous invitons des personnes pour que nous comprenions que l'engagement, c'est pas un bain. L'engagement, le baptême, c'est quelque chose de sérieux. C'est par rapport à notre conscience. Vraiment, je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Combien de gens ont pris le baptême, mais n'étaient pas convertis. Moi, vous savez, en tant que pasteur, ça a été un sujet qui m'a tracassé pendant des années. La remarque que Gaël a faite dans son témoignage est une remarque, moi, qui m'a profondément interpellé. Des gens qui prennent le baptême, et 6 mois après, ils n'ont aucune piété, ils ont eu une contrariété. Est-ce que ça peut arriver, une contrariété? Bien sûr, ils ont eu une contrariété. Ah, si c'est ça, être chrétien. Et Jésus va dire des choses terribles. Il va dire, il y en a qui croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. Parce qu'on ne croit pas en Dieu juste pour être béni. On ne croit pas en Dieu juste parce que si on est malade, il peut nous guérir. Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir? Est-ce que Dieu peut donner du travail? Est-ce que Dieu peut bénir un foyer? Est-ce que Dieu peut mettre le pardon dans un couple, etc.? Est-ce que Dieu peut bénir? Oui, il bénit. Mais on ne s'engage pas parce qu'on veut être béni. On s'engage parce qu'on veut aller au ciel. Et on veut vraiment que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Il y a des gens qui font ça par superstition. Ils vont à l'église, ils s'imaginent que parce qu'ils vont à l'église, eh ben, Dieu doit être avec eux. Parce que je vais à l'église, eh ben, en plus je prends la Sainte Cène, je prends l'hostie le dimanche matin, je vais à la messe, je vais au culte, ça doit plaire à Dieu. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. La véritable question, elle est là, votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Moi, ma responsabilité cet après-midi, c'est de vous amener tous à vous poser la question, mais en fait, mon nom est-il inscrit dans le livre de vie? Parce que vous pouvez connaître la Bible par cœur. C'est pas pour ça que vous êtes sauvés. Il y a des gens qui connaissent rien à la Bible. Le brigand repentant à Golgotha, qu'est-ce qu'il connaissait de Dieu? Rien, rien. Il a juste fait une prière quand il a été touché par la croix. Parce que lui, il a vécu, comme on dit en live, la prédication de la croix. Et cet homme, ce criminel, ce minable, ce misérable, il a dit au Seigneur, je ne sais même pas s'il a regardé, « Souviens-toi de moi. » C'est même pas une prière, ça, c'est pas une prière. Eh bien, Jésus lui a dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Son nom a été inscrit dans le livre de vie, ça a été rapide, hein? Mais ça a été. Et l'autre n'a rien dit. L'autre l'a insulté, avec des propos complètement désagréables. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et en profitez-en pour nous descendre aussi. » Voyez. On pense qu'à soi, il ne pensait pas à ça, à son éternité. Est-ce que vous pensez à votre éternité? Est-ce que vous pensez à votre éternité? Ou est-ce que vous n'y pensez pas? Il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit, « Monsieur Gouman, je vous promets, je ne pense jamais à l'éternité. » Alors, je dis, « C'est pas possible. La Bible dit, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est écrit, ça. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il m'a menti. Et puis, en réfléchissant, j'ai compris que cet homme ne m'avait pas menti. Mais son cœur s'était tellement endurci, qu'il n'avait plus la pensée de l'éternité. Et je ne veux pas vous faire peur, mais si vous n'avez pas la pensée de l'éternité, moi, je vous conseille de demander à Dieu de l'aide. Parce que vous êtes très mal en point spirituellement. Si vous avez la pensée de l'éternité, c'est une très bonne chose. Ça prouve que votre cœur est ainsi encore tendre et que vous pouvez crier à Dieu, car ces choses, Dieu les a voulues pour que nous comprenions qu'il va toujours chercher à nous aider. Quand on chante que les cheveux de notre tête sont tous comptés. Vous avez chanté ça tout à l'heure, non? Pourquoi ils ont chanté ça? Pourquoi ils ont chanté un truc pareil? Jonathan, pourquoi vous faites chanter un truc pareil au choriste? Les cheveux de notre... Il connaît les cheveux. Comment c'est? Il connaît les... Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Bon, c'est vrai que pour certains, c'est... Mais, franchement, pourquoi ils ont chanté ça? Vous qui venez pour la première fois, pourquoi ils ont chanté ça? Eh bien, parce que c'est écrit dans la Bible. Parce que dans la Bible, il est dit que le Seigneur connaît tous les cheveux de notre tête, le nombre. C'est quand même... Ça fait du monde, 7 milliards de personnes. Ça fait quand même... Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire littéralement que Dieu tient à savoir combien de cheveux on a sur la tête? Ou est-ce que ça veut dire que Dieu contrôle tous les détails de notre vie? Moi, je crois que ça veut dire que Dieu contrôle tout. Et il connaît votre vie, il sait si votre cœur a cette crainte, il sait si votre cœur est loin de Dieu, il sait si vous avez la pensée de l'éternité ou si vous ne l'avez plus. Et la chose à faire, c'est de prendre ces choses au sérieux. Vous savez, je termine avec cette pensée. L'histoire de la création est divisée en dispensations. Il y a eu la dispensation de l'innocence, aujourd'hui nous sommes dans la dispensation de la grâce. Après la dispensation de la grâce, il y a un temps de colère. Il y a un temps de colère, c'est ce qui est résumé dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque la grâce sera terminée, écoutez bien parce que c'est ce qui va arriver. Lorsque la grâce sera terminée, l'Église sera enlevée de la terre. Alors ça peut vous faire rire, mais ne riez pas, réfléchissez-y. Le Seigneur l'a promis des centaines de fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et il veut que vous sachiez qu'un jour la grâce va s'achever. Quand la grâce va s'achever, il va y avoir un gouverneur mondial. C'est écrit dans l'Apocalypse. Va sortir certainement, je pense, de l'Europe, va sortir un dictateur mondial. Et tout ce qui se passe, tout ce qui s'écroule, est en train de favoriser. Si vous écoutez un peu les leaders mondiaux politiques, ça ressort de temps en temps d'une façon ou d'une autre. On va vers une monnaie unique, on va vers un dictateur mondial, et ce dictateur mondial va faire une alliance avec Israël, ça va pas trop mal se passer pendant 3 ans et demi. Je vous résume l'Apocalypse. Et après, il va y avoir un système de dictature sur la terre, et que tout le monde sera obligé d'avoir sur la main droite ou sur le front une puce pour être suivi. En fait, il ne pourra pas acheter, ne pourra pas vendre. C'est écrit, ça a été écrit il y a 2000 ans. Vous le relirez, lisez-le. Ce sont des choses qui vont arriver. Et la Bible est catégorique. Tous ceux qui accepteront la marque de la bête iront en enfer. Alors vous comprendrez, je ne vais pas tout vous expliquer. Mais c'est ce qui va arriver. Et je pense que c'est le devoir des pasteurs de dire ces choses. Oui, il y a un paradis, il y a un enfer. Alors les gens qui sont dans l'ignorance pourraient dire, mais oui, mais Dieu n'avait pas à créer d'enfer. C'est beaucoup plus sérieux que ça quand on a compris la justice et la sainteté de Dieu. En tous les cas, ça, on ne peut pas le changer. Une chose est sûre, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que vous alliez au ciel. Dieu ne veut pas que vous alliez dans un lieu de tourment. Et la seule façon d'y aller, c'est pas d'être protestant ou de dire, moi j'ai ma religion, je ne change pas de religion. Moi, j'honore mes parents. Mais c'est bien, honorez-les. Mais je pense qu'il vaut mieux que vous changiez de cœur et tout en continuant à honorer vos parents. Parce que ce n'est pas vos parents qui ont payé pour que vous alliez au ciel. C'est Jésus qui est sur le bois de la croix, a versé son sang. Jésus, c'est Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire et qui est venu dans le sein de Marie pour donner sa vie pour chacun de vous. Vous entendez, mes frères et sœurs? Alors, je termine avec cette simple question reformulée. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Parce que dans la Bible, on le voit, il y a des gens, leur nom est inscrit. Des noms ne sont pas inscrits, et même, ça va plus loin, il est même dit dans l'Apocalypse que des noms ont été effacés. Alors ça fait pitié, ça. Je ne sais pas dans le ciel qui est chargé de faire ce travail, mais je vous assure que ça doit être le travail le plus terrible du ciel. Effacer des noms qui ont été inscrits. C'est-à-dire, voilà, un nom, Gérard Gault, il a donné son corps au Seigneur, puis il a abandonné, il a laissé le péché envahir sa vie, il a laissé le mal revenir dans son âme, et voilà. Et le nom qui a été écrit dans le livre et peut être effacé. C'est pour cela que dans les églises, on doit être sérieux avec la vérité, voilà, avec la doctrine biblique. Dieu vous aime et il veut que vous entendiez ces choses, même si ce verset pourrait faire partir quelqu'un de l'église. Je l'ai déjà vu, que quand j'ai prêché sur l'enfer, quand j'ai prêché sur des choses qui doivent être prêchées, il y a des gens qui se sont levés, qui sont partis. Mais on ne va pas baisser le niveau pour faire plaisir à une personne. Ce qui est important, c'est que vous puissiez peut-être réfléchir. Et alors qu'on va terminer par la prière, je crois que la chorale a un chant d'appel. Eh bien, peut-être que vous puissiez répondre et dire, mais oui, moi je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Gaël, il a voulu, personne ne l'a forcé. Quelqu'un vous a forcé ici, quelqu'un vous a dit, prenez le baptême. Il faut un baptême tous les mois, prenez un baptême. Non, c'est une décision personnelle. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas nous qui allons vous forcer. Même si la teneur de la prédication pourrait vous le faire croire, Dieu ne vous forcera pas à vous convertir. Dieu ne vous obligera pas à vous repentir. C'est vous qui devez dire oui, je cède devant l'amour de Jésus manifesté au calvaire. Parce qu'en fin de compte, c'est par amour qu'on fait ces choses. C'est pas par la contrainte, c'est même pas par la peur de l'enfer. C'est parce qu'on est touché par ce que Jésus a fait sur le bois de la croix. Et cet après-midi, je vous encourage à réfléchir, mais à lire l'Apocalypse. Lisez-le. Bien sûr, c'est fastidieux la première fois, il y a tellement de symboles, mais lisez et vous comprendrez, si vous le lisez plusieurs fois, vous comprendrez que les hommes sont entrés dans un processus de blasphème. Et je peux vous dire que quand vous lisez l'Apocalypse dans cette deuxième partie de la grande tribulation, vous voyez que les gens, non seulement ils insultent Dieu, mais ils sont devenus blasphémateurs. C'est pour vous dire combien les gens aiment le mal. Mais nous, cet après-midi, nous sommes dans sa maison et nous croyons que Dieu veut sauver des hommes et des femmes parce que la porte est encore ouverte. Alors on va terminer en fermant les yeux, si vous voulez bien. C'est important que vous puissiez dire, oh, mais moi je veux réfléchir. Voilà, c'est à vous de réfléchir. Notre Père, notre Dieu, tu permets ces moments pour que nous réfléchissions. Tu l'as demandé aux hommes de réfléchir. Oui, tu nous as donné une âme et tu as dit qu'un jour, cette âme nous serait redemandée. Nous ne savons pas, Seigneur, quand est-ce que tu reviendras nous prendre individuellement ou alors tous ensemble, mais tu l'as dit. Seigneur, nous te remercions pour le témoignage de Gaël, oui, comme Olivier te l'a demandé, garde-le. Garde-le fidèle, afin que son nom ne soit pas effacé du livre, de ce livre dans les cieux qui prouve combien nous t'avons donné notre cœur. Tu vois cet auditoire, tu vois tous ceux qui écouteront l'enregistrement de cette évangélisation. S'il te plaît, Seigneur, nous te prions d'amener des hommes et des femmes à réfléchir à ce que leur nom soit un jour écrit dans le livre de vie. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen.